Moi, je suis Nicolas Ruc, dans la société galloise. Je vais vous faire une présentation sur le Stryvoir dans le logiciel. Je vais essayer de capter l'attention des derniers survivants. Je vais en aller un peu plus féminin pour me soutenir, mais bon, je vais quand même essayer d'y arriver. Comme on est déjà en délai, je vais aller assez vite, mais vous verrez, les sources d'informations sont nombreuses, donc vous trouverez toutes les informations sans problème. Je vais juste vous parler des choses que moi j'ai découvertes dans ma R&D. Le plan de présentation c'est celui-là. En gros, deux grosses parties, les fonctions natives du système, et puis les composants préinstallés, type Internet Explorer, Messenger et autres, avec en conclusion quelques éléments de sécurisation, mais qui ne sont pas évidemment intéressants. Alors, pourquoi j'ai choisi d'utiliser ce titre oracolaire qui m'a valu le mail de Microsoft, d'ailleurs, que j'ai envoyé le sujet de présentation au comité de programme. Le spyware, c'est un sujet qui est à la mode, puisque l'interprète s'appelle Eric Rose, qui est juriste, donc il a recensé en 2002 56 types de spyware qui accédaient à 125 sites, et en 2003, il en a recensé 493 qui accédaient à 1317 sites. C'est quelque chose qui est vraiment en augmentation. On en parle de plus en plus. Il y a l'histoire de Magic Lantern, c'est pas vraiment un spyware, mais c'est aussi une backdoor du FBI. Il y a le problème du 11 septembre avec de plus en plus de moyens qui sont mis en œuvre de manière légale pour contrôler les gens. Et finalement, Microsoft, par le biais de Windows, fait un train. Même en France, on n'est pas épargné, puisque la loi sur la sécurité quotidienne, la loi sur la confiance dans l'économie numérique et autres, qui tendent à exercer un contrôle de plus en plus accru sur les internautes. Et puis, les éditeurs logiciels ont de moins en moins de scrupules, c'est-à-dire qu'avant, c'était une honte de détecter une backdoor, un spyware dans un logiciel. Aujourd'hui, il y en a plein qui vous proposent des logiciels gratuits en échange de l'installation de backdoor. Pas de backdoor, disons de spyware, mais il y en a qui sont à la limite. Il y en a qui proposent carrément de faire le temps de calcul de votre machine, de le louer à des personnes extérieures pour qu'ils puissent donner des DNL, qu'ils fassent du calcul distribué, des choses comme ça. Et donc je parle du logiciel sur code DVD Pro, parce que lui il est particulièrement vicieux, dans le sens où s'il détecte une durée d'exécution dans une procédure qui est un peu trop longue, il suspecte qu'il est en train d'être débugué, donc probablement craqué, ou en tout cas reverse engineering, et donc il se connecte à un serveur SMTP sur Internet et il envoie un mail avec des informations personnelles sur votre machine, comme l'adresse email de l'utilisateur Outlook, et ça déclenche immédiatement des actions juridiques chez l'éditeur du logiciel. Donc ça, c'est des trucs qui maintenant sont dans les logiciels du commerce. Je ne vais pas parler de tout ça, je vais juste parler de Microsoft. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur lot de problèmes. Par exemple, il y a une histoire sur le super cookie Windows Media, donc là, ça fait et autres. On verra après de quoi il s'agit. Il y a aussi le Product Activation que j'ai tous découvert en installant Windows XP. Donc tout le monde se demande à quoi ça sert et qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis il y a tout ce qui est CPA, Palladium et autres, où finalement on ne pourra plus utiliser son ordinateur s'il n'est pas connecté à un serveur Microsoft. Donc les gens se posent de plus en plus de questions. Ok, donc moi ce que je vais faire, c'est évidemment, non seulement le sujet est très vaste, mais en plus j'ai très peu de temps, donc je vous invite à vous reporter un document de référence qui s'appelle Using Windows XP Pro Management Controlling Communication with the Internet. Donc il fait 200 pages, c'est pour ça que je fais une petite présentation rapide, et qui recense tous les points de contact vers Internet disons, documentés par Microsoft. Parce qu'en fait, dans le mot spyware, je mets en fait le titre exact de la conférence aurait dû être pourquoi est-ce que Windows XP se connecte à Internet? Chose que vous verrez assez facilement si vous installez un firewall personnel. Vous avez un pop-up toutes les 5 minutes à peu près, donc au bout d'un moment, vous allez voir ce qui se passe. Et puis, il y a quand même des gens qui ont fait des travaux, qui ont sorti des logiciels, donc j'ai intégré la présentation aussi. Alors, déjà quand vous installez Windows, je cherche un site web. Pourquoi? Ça prend une bonne attention, c'est pour télécharger automatiquement les correctifs depuis Windows Update au moment de l'installation. Il y a deux méthodes, soit vous donnez explicitement automatiquement la narration pour si, soit je vais le détecter de manière automatique. Alors ça, ça sert donc à faire la recherche driver à jour. Ça sert aussi à l'activation du produit donc, dont je parle juste après. Et puis, ça sert aussi à l'enregistrement qui est une phase facultative, qui est ça, qui elle existe depuis longtemps dans tous les logiciels. Alors, comment il fait pour se connecter à Internet si jamais vous ne lui donnez pas l'adresse du proxy? En fait, je me suis demandé s'ils avaient été assez vicieux pour faire du scan de port sur le port 80 et autres. En fait, c'est moins violent que ça, c'est juste qu'il utilise, il trouve l'adresse du proxy si vous l'avez configuré dans une option DHCP, qui est l'option 252. Ou alors, il fait une requête DNS. Si jamais vous avez une machine qui porte ce nom-là dans votre domaine, il va automatiquement télécharger un proxy.pack sur cette machine et se connecter avec ce proxy. Donc, vous pouvez l'empêcher de se connecter à Internet à l'installation. Sachant qu'avec Windows 2003, ils disent que ça a été renforcé, donc j'ai pas eu le temps de tout regarder, mais a priori, la seule différence, c'est que avant ça, c'était fait par IDE, en fait, pour passer du mode offline au mode online. Alors que maintenant, c'est un service système qui tourne en tâche de fond. Donc dès que la machine boot, elle peut automatiquement commencer à détecter le proxy et à se connecter à Internet, avant qu'un utilisateur soit logué. Ok, l'activation, donc c'est une nouvelle feature de Windows XP. Donc c'est pas l'enregistrement. Hein. L'enregistrement, ça permet juste de déclarer votre produit pour avoir accès au support technique, des choses comme ça. L'activation, ça vous permet quoi? Ça vous permet d'avoir une licence définitive, puisque la licence, maintenant, le numéro de série que vous délivrez dans la boîte, ne fonctionne que 90 jours après l'installation. Après, vous êtes obligé de l'installer. Bon, il existe des clés dites en volume qui permettent de se dispenser de cette fonction et qui sont destinées à des gros clients qui ont des partitions de poste, etc. Donc, l'objectif évident annoncé par Microsoft, c'est de lutter contre le plantage, puisque copier les clés lors des bases de numéro de série, c'est très facile. Les détails techniques de l'activation. Alors là, je vous donne l'adresse d'après d'un site qui détaille tout ça parce que c'est assez compliqué, mais ça a été au moins aussi bien étudié que l'Adipot, donc là on a toutes les informations. Qu'est-ce qu'il prend en compte? Il prend toutes ces informations. Vous voyez qu'elles sont assez nombreuses, mais bon, c'est que des informations, on va dire, hardware. Et sur toutes ces informations, il utilise une fonction de la charge. Il utilise une fonction de recherche qui est Guillaume Dessin, je crois, avec une SOAP-key, et il en déduit en fait un identifiant d'installation qui vous sert à activer le produit. À partir de cet identifiant d'installation, mélangé avec un système de cryptographie avec des publics et des privés, Microsoft est capable de vous fournir un hash signé avec la clé privée Microsoft qui permet à votre produit d'être activé définitivement. Ce hash, vous le retrouverez en fait, il est stocké dans ces emplacements. Donc si jamais vous devez réinstaller une machine qui a la même config hardware, vous pouvez vous éviter la réactivation en utilisant cette information. Quand est-ce que vous avez besoin de réactiver le produit, c'est s'il y a plus de 3 paramètres sur les 10 paramètres précédents qui changent. Donc là, je ne sais pas si par exemple vous formatez un disque dur, vous changez de carte graphique et vous rajoutez une barrette de mémoire, vous êtes obligé de réactiver votre système. Bon, ce qui peut être assez gênant. Pour la transmission d'informations, ça peut se faire soit par téléphone, soit par Internet. Alors en fait, ce qui tend quand même à montrer que le volume d'informations qui passe est vraiment très faible, c'est que vous pouvez faire par téléphone, en fait, avec les 10 informations précédentes, il fait un hash, et ce hash fait, disons, une vingtaine de chiffres que vous donnez par téléphone. Donc effectivement, Microsoft ne peut quand même pas récupérer énormément d'informations, et de toute façon, il ne pourrait pas remonter pour faire votre adresse email, votre compte, etc., puisque c'est une fonction OMM. Bon, quand on utilise Internet, en fait, il se connecte à un site web, on se connecte sans utiliser HTTPS, d'ailleurs, mais il ne transmet pas plus d'informations. Donc si vous voulez tous les détails, vous les avez là-dessus, hein, je vais passer parce que là ça fait quand même une dizaine de pages assez complexe, qu'il faut retenir s'il n'y a pas d'informations cachées. Et si jamais, pour l'enregistrement, il utilise aussi un site web, donc l'enregistrement c'est complètement différent. Et là ce que je trouve intéressant, c'est que ce site web, lui, il est en DNS dynamique, enfin, il est hosté par quelqu'un d'autre. Ce qui sera un peu la conclusion de ma présentation, c'est qu'il ne suffit pas de filtrer tous les Microsoft.com pour internet. Ok, alors au niveau d'Explorer, c'est-à-dire l'Explorer, c'est l'interface graphique, hein. Il y a pas mal de choses qui se passent. Bon, Parce que, alors, par exemple, si vous faites un raccourci sur une page web, que vous me la mettez sur votre bureau, en fait, à chaque fois qu'il rafraîchit le bureau, il va essayer de repérer le code site, donc il va se reconnecter au site web en question. Donc, si vous créez des raccourcis vers les partages réseau, il peut aussi automatiquement se reconnecter quand vous faites un refresh. Sachant que quand vous connectez les partages réseau, ils sont mémorisés dans un dossier qui s'appelle les favoris réseau. Donc, en fait, la reconnexion se fait à chaque fois que vous rouvrez la session, ce qui peut être gênant si vous transportez votre portable à l'extérieur de la société. Quand vous reconnectez au réseau étranger, en fait, il essaye de reconnecter tous les partages, et il essaye de se reconnecter, de relocaliser les machines et de leur donner vos identifiants NTNF pour ouvrir la session. Sinon, il y a plusieurs options d'interface. Celle que je préfère, c'est celle-là. Ici, en fait, dans toutes les fenêtres de l'explorateur, vous avez un endroit où c'est marqué « Setlobbing Windows est illégal ». Donc, si vous avez peur de cliquer dessus, je l'ai fait pour vous. En fait, on arrive sur un site web qui vous dit simplement « voilà, un CD Windows original, c'est un CD avec un hologramme, et si jamais vous avez des doutes, contactez le 800, piracy, etc. » Bon, je ne détaille pas tous les trucs de l'explorateur. Puisqu'en gros, toute information qui est issue d'Internet, en fait, le système de garder en mémoire, l'origine de cette information, elle va s'y reconnecter. C'est ça qu'il faut retenir. Ce que je préfère, disons, le point particulier sur lequel je vais focuser, c'est en fait l'assistant recherche. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'assistant recherche, c'est, comme la plupart des interfaces à partir de Windows XP, c'est quelque chose qui est complètement web. Donc l'assistant recherche, c'est quoi? Si vous faites simplement démarrer et rechercher. Ouais. Le portable n'est pas super rapide, donc je vais éviter de faire trop de démons. Bon, voilà, c'est pas grave, voilà, si je vais rechercher sur Internet, c'est biaisé. Bon, en gros, la site, voilà, c'est bon. Bon, si je clique là-dessus, par exemple, en fait, tout ce qui apparaît dans cet onglet, là, qui est marqué assistant recherche, ça se voit pas, mais en fait, c'est une page web. Le contenu de cette page web qui est stocké dans WebDir Search Assistant. La page de recherche par défaut, quand vous faites rechercher sur Internet, c'est ie.search.msn.com. Donc, à chaque fois que vous lancez en fait, la recherche, il va essayer de se connecter sur MSN. Cette fonction, en fait, peut être mise à jour. Bon, là, de toute façon, on verra pas, donc c'est pas grave. Oui, parce que j'ai débranché ma carte wireless, voyant qu'il y avait des gens qui s'amusaient sur le réseau wireless. D'ailleurs, le point 106 était de venir me voir à la sortie. Ça va être pas. Ce qui est intéressant, c'est que donc, tout le contenu de la fonctionnalité est dans un répertoire donc, qui est dans C2.Windows Search Assistant. Le contenu, en fait, sont des scripts, du JScript, des pages HTML, etc. Ça peut être mis à jour à distance par Microsoft. Donc quand vous vous connectez en fait, sur le site MSN, il vérifie si vous avez la dernière version. Et sinon, il met à jour en fait, les pages qui sont contenues là-dedans. Quand vous faites des recherches sur MSN, en fait, dans le document dont je vous parlais, il est annoncé par Microsoft qui conserve les logs de recherche pendant un an. Et puis, ce que j'adore, c'est qu'en bas de l'interface de recherche, il affiche un bandeau de pub. Donc comme ça, quand vous faites des recherches, ça part dans Windows, ça rapporte 0,02 centimes à Microsoft. Sinon, il y a quelques risques liés à Explorer, qui sont un peu liés à ce qu'on a dit tout à l'heure pour les virus et autres, qui ne sont pas vraiment niveau spyware, mais il ne faut pas oublier que le SHS, on a parlé tout à l'heure. Quelque chose que je trouve intéressant aussi, c'est que en ligne de commande, il faut savoir que il ne se base pas sur l'extension du fichier, mais il se base toujours sur le header. C'est-à-dire que vous prenez un fichier, vous prenez notepad.exe, vous le renommez en .pdf, par exemple, notepad.exe, je le renomme en toto.pdf, ensuite je vais en ligne de commande, je tape toto et il lance quand même .net. Ce genre de choses. Mais bon, ça dépasse. C'est juste des modes d'explorer, mais qui dépassent le cadre du spyware, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Je crois que vous avez d'ailleurs le support présentation, puisque j'ai fait des textes. Donc, alors, l'un des supports, c'est aussi une fonction qui est intéressante. Là encore, c'est que des pages web. Donc, quand je dis page web, c'est script, voire DLL, Windows Activities, etc. Donc c'est aussi stocké dans un répertoire sur le disque dur. Typiquement, quand on fait des recherches comme celle-là, donc là j'ai fait une recherche tout bête, hein, si je fais une recherche sur Toto, en fait, vous voyez ici, il y a Tools Search et Microsoft Knowledge Base, ça veut dire qu'automatiquement, dans le centre d'aide et support, il va transmettre votre recherche en fait, sur les sites .net c'est sur les sites NSDN pour essayer de voir s'il n'y a pas des s'il n'y a pas des informations supplémentaires. De la même manière, il affiche automatiquement quand vous lancez, quand vous faites head dans Windows XP, vous avez vu, c'est plus un point HLP comme avant, c'est le Help Support Center, et il affiche automatiquement une rubrique Le saviez-vous, qui est en fait un type of the day qui provient aussi lui d'Internet. Donc ça, c'est vous l'avez en fait sur go.microsoft.com, donc le link ID c'est 11, il s'ouvre automatiquement sur votre machine. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, il va, en fait, il stocke toutes les news qu'il reçoit de Microsoft, sur le format XML, et il stocke aussi sur le NIS. Donc on disait que le format XML était dangereux, enfin, que, à terme, il y aura probablement des vulnérabilités. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'à chaque fois que vous lancez l'aide de Windows, il télécharge un fichier XML sur votre disque dur. Bon, après, je vous dis paramétrable par les deadlines, c'est aussi la conclusion de cette présentation, c'est que toutes les fonctions de Windows XP sont paramétrables, c'est simplement que le paramètre par défaut n'est pas bon. Bon, un autre truc intéressant, c'est que maintenant on peut prendre la main à distance sur les postes via Remote Assistance. Pour ça, vous allez sur whatresponse.one.microsoft.com et vous allez donc, si vous êtes dans les programmes de support, vous leur dites voilà, j'ai un problème, etc. Et vous avez, si vous passez les facs, vous avez un conseiller qui vous propose de répondre à votre problème, et pour ça, il utilise en fait un compte qui est built-in dans le système, qui est le compte support machin, qui peut être utilisé pour se reconnecter en fait comme une sorte de VNC, hein, c'est la fonction remote assistance, sur votre machine. Ce compte-là, il est intégré, il est built-in dans le système, sachant que si vous achetez votre machine chez un OEM, ils peuvent rajouter aussi des comptes qui leur servent, eux, à vous fournir du support. Enfin, je ne sais pas, vous avez IBM avec un support premium, machin. Je ne sais pas si c'est le cas, mais ils pourraient rajouter un compte et vous offrir en même du support par de la prise en main distante. Windows Update, ouais, c'est aussi un truc qui fait beaucoup de questions. Alors comment ça marche? Bon, je n'ai pas tout décortiqué parce que c'est quand même énorme. Globalement, c'est un composant ActiveX que vous téléchargez la première fois que vous connectez sur le site. Donc il y a l'adresse au-dessus, si vous voulez le télécharger pour le désassembler, ce que j'ai fait, vous pouvez trouver l'adresse. Il se connecte à un site windowsupdate.microsoft.com, il fait des téléchargements qui placent dans des répertoires temporaires, et vous avez accès quand même à tout ce qu'il fait dans des journaux, bon, un format XML, donc je ne sais pas si on pourra bientôt faire des bugs un peu comme ceux qu'il y a sur les fichiers de log en injectant du script dans les logs, puis après ça s'exécute, enfin, je ne sais pas si c'est possible. Cette fonction, je vous en parle parce que je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Windows Update. Mais il vous propose d'afficher l'historique des installations. Donc le message que je vais faire passer, c'est que l'historique des installations, il est stocké dans list.xml, il n'est pas stocké sur le serveur de Microsoft, en fait, de votre adresse IP, avec la liste des collectifs que vous avez téléchargé. Donc ce qui est intéressant quand on regarde à peu près ce qui se passe, c'est que le traitement, en fait, il est partagé en deux. Il y a une partie qui est sur le serveur, avec des URL auxquelles vous pouvez passer des paramètres, et puis une partie côté client qui est un script en fait et qui va essayer d'identifier les composants de votre système pour faire les requêtes uniquement nécessaires pour identifier en fait le type de système, le niveau d'application et autres pour faire les requêtes uniquement nécessaires à la recherche de correctifs qui nous concerne. Bon, je ne vais pas trop m'étendre sur le fonctionnement, je vais juste vous parler des remarques intéressantes que j'ai pu faire. Donc déjà, tous les transferts se font avec un nouveau service qui s'appelle le Upload Manager, qui est en fait démarré en même temps que le service Bits. Bits étant Background Intelligent Transfer Service, c'est-à-dire en fait un service de transfert en arrière-plan intelligent. Et ça, c'est assez vicieux parce que d'une part, c'est démarré par SVCHost comme pas mal de services dans Windows XP. Donc si vous autorisez SVCHost à aller sur Internet ou à votre firewall personnel, automatiquement vous activez ce composant-là. Ensuite, ça fonctionne en arrière-plan puisque ça utilise la bande passante restante sur le réseau. Donc si jamais vous êtes en train de télécharger, il ne se passe rien. Et puis quand il détecte qu'il y a une baisse d'utilisation de la bande passante, il commence à faire le transfert asynchrone avec les sites de Microsoft. Et en plus, l'API de Upload Manager n'est pas du tout documentée. Donc c'est difficile de savoir ce qu'ils en font. Mais ça permet d'échanger des fichiers avec le site de manière asynchrone. Bon, ensuite, c'est un processus qui n'utilise pas du tout HTTPS, donc tout passe en clair. Le seul truc quand même, pour ceux qui avaient déjà des idées, c'est que les correctifs Microsoft sont signés en fait par une autorité de certification qui est built-in dans Windows. Donc si vous téléchargez des faux correctifs, sous réserve de. Enfin, si vous êtes téléchargé directement des fonds correctifs, ça ne marche pas. Par contre, si jamais vous avez un certificat qui se trouve. Qui est lié à une autorité de certification connue du système, qui est VeriSign ou autre, je ne sais pas trop ce qui se passe. Quoi. Donc, il y a des chances que ça marche. Et puis, en fait, cette fonction, elle est utilisée. En fait, Windows Update avant, c'était quelque chose qui n'était pas très connu, qui était appelé manuellement par les gens qui connaissaient. Maintenant, ça tourne en tâche de fond, puisque vous avez la fonction auto-update qui tourne en tâche de fond. Et Dynamic Update, c'est pareil. À chaque fois que vous installez un driver, il se connecte automatiquement, enfin, il vous propose en tout cas de vous connecter à Windows Update pour voir s'il n'y a pas une version plus récente du driver. Et même dans les interfaces, vous pouvez cliquer sur un bouton pour avoir la version plus récente du driver s'il en existe une. Bon, d'autres marques un peu plus anecdotiques. Bon, dans le contrôle Activity, bon, j'ai essayé de désassembler rapidement, il n'y a pas grand chose, c'est vraiment un contrôle qui est tout petit, il fait 100 kilo-octets. Il y a un seul truc que j'explique pas, c'est qu'il y a une adresse IP en dur. Donc c'est peut-être un serveur de développement interne de Microsoft, mais en tout cas, bon, elle ne pingue pas, elle est enregistrée en DNS, donc je ne sais pas à qui elle appartient. C'est le seul truc qui m'a un peu critiqué. Quand il y a un peu le code de Windows Update, j'aime bien cette ligne, en fait, c'est une ligne de commentaire. Donc c'est le bug 16783 de Windows Update. Donc je vous laisse imaginer combien il y en a. Donc c'est... jamais il y a un truc dans le script, ça ne marche pas avec le sein. Et puis dernier point quand même qui est indépendant du spyware, mais je vous rappelle que Windows Update ne fait des mises à jour que Windows et IE. Donc CF, Lever, Slammer, tout ce qui installe de SQL et de MSDE n'est pas mis à jour par Windows Update. Voilà, et puis Office aussi, il y a Office Update pour Office, mais par contre tous les correctifs de sécurité pour Word et autres, vous ne les avez pas sur Windows Update. Et ils ne vous proposent pas de les télécharger par le mécanisme d'auto-update. Bon, sinon j'ai une petite capture d'écran intéressante là en marge de la présentation. Je ne sais pas si on a vraiment chaud. Voilà. Donc ça c'est une capture d'écran qui est faite avec Windows 2003. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de Code Red. Donc il y avait quand même pas mal de gens qui avaient des Windows 2000 chez eux, en install plus ou moins Sauval, enfin soit du Wanadu, Linux et des trucs comme ça. Et bon, la différence maintenant avec Windows 2003, c'est qu'on ne pourra même plus appliquer le correctif. Parce que tous les gens qui ont une version plus ou moins illégale de Windows ne peuvent plus télécharger le correctif. Donc je pense que Code Red 3 va être très intéressant. La Code Red 2003. Ok, je continue maintenant. Alors un autre truc aussi oui, qui fait poser beaucoup de questions, c'est le rapport d'erreur, puisque maintenant, dès qu'une application plante ou dès que Windows plante, il va uploader automatiquement les infos sur le plan. En tout cas, il vous propose de uploader les infos sur le site de Microsoft. Donc qu'est-ce qu'il envoie? L'adresse IP forcément, puisque c'est vous qui vous connectez. Le Product ID, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce fameux Product ID, en fait, c'est votre clé de licence, plus toutes les informations matérielles hachées par MD5, plus une soft key, et tout ça encore re-haché, et ça vous donne le Product ID. Donc c'est quelque chose qui n'est pas, à la cause de la soft key, c'est pas mappé de manière unique avec une machine, donc ça permet pas de, on peut pas à partir du Product ID remonter une machine, par contre on peut remonter à partir du Product ID, on peut quand même savoir si une licence est valide ou pas. Bon après pour les modes de calcul, je n'en sais pas avec l'état cryptographique, j'en ai déjà eu beaucoup, mais sur le site de Licenturion, tout ça est expliqué, donc c'est pour ceux qui s'intéressent, on trouve. Et puis quelque chose d'intéressant, donc c'est quand une application plante, donc il envoie un mini-dump, le mini-dump, il faut savoir quand même qu'il est documenté dans la plateforme SDK, donc vous pouvez vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Bon, a priori, il n'y a pas de choses qui sont quand même trop compromettantes pour l'utilisateur. La seule chose qui, effectivement, peut poser problème, c'est tout ce qui est données d'allocation mémoire, puisque, effectivement, il envoie des bouts de mémoire au bout de... En fait, tout ce qu'il y a au bout de tous les pointeurs, il envoie un petit extrait. Donc, si jamais c'est PGP qui a planté, il y a une chance infime qu'il envoie avec les privés serveur Microsoft. Mais bon, ça, c'est pas spécifique à Windows. Bon, ça c'est pour les applications. Pour le noyau, c'est à peu près pareil, sauf qu'il envoie des informations matérielles uniquement, donc les drivers, tous les drivers qui ont été un jour ou l'autre identifiés sur le système, des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est. Donc, c'est tout ça, ça utilise encore le service Cloud Manager. Donc c'est quelque chose qui est stocké sur votre disque dur et après vous ne savez pas quand est-ce que ça part. Vous ne pouvez pas contrôler en fait la transmission si vous ne l'avez pas désactivé. Ça part de manière asynchrone à un moment où vous n'utilisez pas trop votre bande passante. Et c'est pareil pour le crash noyau, hein, quand vous bootez votre machine, à un moment, il va l'envoyer sur le site de Microsoft. Enfin, si vous ne désactivez pas la fonction. Voilà. Un truc intéressant, c'est quand même le online, le corporate online reporting, parce que les possibilités, si ces rapports vous intéressent, il y a possibilité de les envoyer sur un serveur interne à l'entreprise. Et bon, c'est assez compliqué à faire, parce que je ne sais pas, ils sont bien documentés, mais c'est plus intéressant. Enfin, ça vous permet de filtrer l'information qui sort. Au passeport, c'est aussi, en fait, dans cette présentation, globalement, c'est un focus sur les points qui me semblent intéressants, disons qui me semblent judicieux de connaître. Je sais que tout le temps imparti, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais bon, je me tiens à votre disposition éventuellement. Voilà, bon, ben, je vais acheter vite. Passeport, c'est quelque chose qui est intéressant, puisque c'est maintenant aussi intégré nativement dans IE 6, Windows XP, etc. C'est en fait un SSO mondial. Donc, je pense que la plupart des gens qui doivent connaître. C'est-à-dire, à côté de votre identifiant Windows, vous avez la possibilité de mémoriser les identifiants passeport dans Windows XP. Et ces identifiants sont normalement valables sur tous les sites partenaires, ainsi que sur tous les sites Microsoft qu'ils supportent. Ils sont assez nombreux. Par exemple, pour télécharger les previews bêta ou les infos du MSDN, il y a certaines zones où il faut s'authentifier. Ben, il suffit d'avoir une adresse hotmail, de vous donner votre adresse hotmail et vous pouvez entrer dans le fond. Comment ça marche en gros? Bon, il y a des sites qui sont en passeport.net, passeport.com, il y a un protocole qui est assez bien documenté. Ce que j'aime bien, c'est nexus.passeport.com, puisque Nexus, en fait, c'est dans le modèle Palladium, c'est la base de confiance, en fait, c'est le serveur central qui contrôle en fait toutes les machines Palladium d'Internet. Quoi. C'est comme ça qu'il c'est, enfin, c'est le Nexus, hein, c'est ce qu'il appelle. Donc, enfin, je pense que tout ça s'inscrit dans un plan global. Un truc qui me fait souci, c'est que je ne sais pas trop comment fonctionne l'authentification passeport au niveau channel réponse. C'est-à-dire qu'il contacte le site, qui lui renvoie des infos, ensuite il fait une manip sur ses infos à partir du mot de passe, il renvoie des infos. Bon, c'est pas du NGLM, quoi, hein, c'est vraiment un truc propriétaire. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais je crois que personne ne le sait. Mais dès que ça sortira, on pourra faire du off-track et des trucs comme ça pour sniffer ce genre d'authentification. Bon, au niveau de l'implémentation, en fait, il envoie pas mal de cookies. Donc, il envoie un cookie MSPSEC qui, a priori, à mon avis, de l'avis de plusieurs personnes, contient le mot de passe passeport d'une forme plus ou moins brouillée, puisque ce cookie, après, est repassé aussi pour vous authentifier, et que si jamais vous changez de mot de passe, il y a plusieurs éléments qui laissent à penser que le mot de passe serait dedans. Il envoie d'autres cookies comme le profil. Donc ça, le profil, il y a justement une vulnérabilité là-dessus qui était... dans votre profil, il y avait tout, hein, en clair, il y avait le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, le numéro de rue, etc. Il y a des trucs comme le cookie MSPPrêt, votre adresse email dedans, des choses comme ça. Et puis en fait, au niveau passeport, chaque utilisateur a un identifiant unique, qui est le PULID, et en fait, à terme, c'est censé être votre identifiant unique sur Internet. Bon, il y a un projet concurrent qui est Liberty Alliance, mais franchement, ils ne sont pas très très avancés, donc si ça continue comme ça, vu que maintenant c'est intégré de manière native, à l'IS 6, à Internet Explorer, Google XP, etc. Il y a des chances que Microsoft contrôle le SSO. Enfin, le SSO, ouais. Bon, les risques, je pense que vous pouvez deviner, hein, c'est... il y a une base d'informations nominative sur passeport.com, donc si je suis site partenaire, je peux accéder à toutes les informations de l'utilisateur. Théoriquement, l'utilisateur peut contrôler quel niveau d'information il donne au site, mais enfin, c'est assez compliqué à faire, il faut éditer son profil, etc. Ça se fait au cas par cas. Et puis, c'est quand même un peu plus puissant qu'un cookie, puisque là, au lieu d'avoir il y a déjà des cookies qui sont passés par le publicitaire, mais là, c'est carrément à chaque fois que vous allez faire un achat, on sait sur quel site vous avez été, ce que vous avez acheté, et tout ça, c'est centralisé dans une base d'informations unique qui est contrôlée par Microsoft. Pour le vol d'information, ça, c'est pas du tout beau, puisque déjà identifié, il y a accès sur le wallet. Le wallet, c'est la fonction. C'est une fonction Microsoft basée sur Passport qui permet de saisir automatiquement votre numéro de carte bleue de manière sécurisée sur les sites qui en font la demande. Bon, en pratique, le numéro de carte bleue, on peut le retrouver en lisant un cookie. Enfin, on pouvait le retrouver. Dans les cookies paralysés, il y a votre question secrète et des choses comme ça qui permettent de se reloguer. Et puis, récemment, une vulnérabilité qui vous permet de changer de mot de passe de n'importe quel utilisateur simplement en tapant une URL, point d'interrogation, user et direct. Donc, pour un système d'authentification mondiale, c'est quand même un peu assez grave. Bon, le vol de cookies aussi, ça c'est un truc qui se fait. Et puis, après, les possibilités des services éventuellement. Et puis, tout simplement, le mot de passe. Windows BSS, c'est quoi? C'est Protected Storage Subsystem. Donc, c'est en fait l'endroit où ils stockent tous les secrets du système, de manière théoriquement non lisible, mais en pratique, une appli qui s'exécute un virus, par exemple, un cheval de Troie pour le login. Voilà. Bon, au niveau du login, En fait, le seul truc à savoir, c'est que globalement, quand vous êtes dans zone intranet, zone intranet ou site de confiance, en fait, c'est le système qui log automatiquement sur le site. Et se loguer automatiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser l'authentification MTLM, et seulement s'il n'y arrive pas, il utilise l'authentification de native HTTP. C'est-à-dire que si vous avez, vous avez un site sous Apache, vous verrez qu'un client IE qui vient se connecter, votre site est en intranet, vous verrez dans les logs pour se lever en fait, le H, le mot de passe MTLM de l'utilisateur. Chose que Telnet de Windows 2000 faisait déjà, puisque quand vous faisiez Telnet sur une station Linux, il commençait par envoyer le H de MTLM, et puis, enfin, du moins par demander une authentification MTLM, et si jamais vous répondez à l'authentification, vous pouvez trouver son H de mot de passe sans problème. Alors, pourquoi pour moi c'est un problème, parce qu'effectivement ça fait sortir votre mot de passe quand vous connectez à des sites web. Bon, vous allez me dire que ça marche que dans la zone intranet, mais moi il y a un bug quand même que j'aime bien, parmi les nombreux bugs, donc corrigé d'IE, c'est qu'en fait la différence qui fait entre zone internet et zone intranet, c'est est-ce qu'il y a un point dans l'URL ou pas. S'il détecte quelque chose du type A.B, il pense que c'est internet. S'il détecte un site qui s'appelle A, il pense que c'est intranet. Et en fait, vous savez qu'il y a une façon d'écrire les adresses IP qui consiste à utiliser en fait un entier sur 32 bits. Donc en fait, l'octet de poids faible plus 256 fois le deuxième octet d'adresse IP plus 7,65 000, etc. Et en fait, donc vous obtenez une adresse qui est juste un chiffre, et donc je considère que vous êtes en zone intranet, donc vous faites une URL comme ça dans un mail et vous pouvez récupérer votre page de la Windows de l'utilisateur. Bon, après, je ne sais pas si ça marche sur toutes les versions d'IE, mais dans la majorité des IE rencontrés en entreprise et en patché, ça doit marcher sans problème. Bon, après, d'autres problèmes dans l'IE, c'est clair, c'est tout ce qui est saisie et semi-automatique. Bon, par défaut, vous loguez sur n'importe quel site, il va proposer de mémoriser le contenu des formulaires. Alors, en quoi ça pose problème? Adresse web, c'est, si vous avez l'historique des 20 derniers jours d'utilisation d'IE, vous avez tout ce qui est login.sp, point d'interrogation, user égal, mot de passe égal. Enfin, Caramel est un bon exemple pour ça. Le contenu des formulaires, si l'utilisateur a saisi une question secrète, vous l'avez dans la mémoire du formulaire. Pour le login mot de passe, j'en parle pas. Hein, dès que vous loguez sur une appli, si vous lui dites de mémoriser le login mot de passe, après vous reloguez sans problème. Alors ça, c'est stocké où? C'est stocké dans justement ce protected storage. Protected storage, c'est un truc que j'aimerais bien creuser. Pour moi, c'est très intéressant. C'est en fait une clé qui, par défaut, n'est pas visible, même aux administrateurs, et dans laquelle il met en fait des infos qui sont chiffrées à partir d'un certain nombre de sources, dont le mot de passe utilisateur. Donc c'est clair, c'est pas accessible quand l'utilisateur n'est pas logué. Par contre, quand il est logué, vous avez un virus ou vous avez une appli comme IE Password Manager, il vous donne tous les mots de passe que IE a mémorisés. Et ce qui est intéressant là-dedans, hein, sans tomber dans la paranoïa sur la NSA et tout ça, c'est qu'en fait c'est basé sur la Data Protection API et cette API en fait utilise la... En fait il y a une master key qui permet le recouvrement qui est en fait le mot de passe du compte machine du contrôleur de domaine. Donc ça veut dire que en fait globalement si jamais vous avez... Enfin il n'y a pas d'outil qui implémente cette attaque à part Advanced FS Recovery comme ça. Si jamais vous avez accès au mot de passe du compte machine du contrôleur de domaine, vous pouvez dans le temps déchiffrer tout ce qui est dans le protocole storage et tout ce qui est chiffré par la DPRD. Donc ça va assez loin, c'est-à-dire c'est les fichiers EFS, c'est les mots de passe que vous mémorisez dans votre client terminal serveur, vous avez une option mémoriser mot de passe, c'est tout ce qui est dans le protocole storage, donc les mots de passe mémorisés par Outlook, les mots de passe mémorisés par IE, les mots de passe POP dans le protocole storage, vraiment, etc. Bon, ça, j'aimerais bien creuser pour faire un outil, mais j'ai pas le temps, malheureusement. Voilà, ça c'était pour le noyau. Si des questions, on prend peut-être à la fin. Rapidement, je vais passer sur quelques composants. Le Media Player, c'est pire, je pense. Bon, pourquoi? Parce qu'il va automatiquement acquérir des licences à chaque fois que vous téléchargez du contenu. En fait, il accède à Internet tout le temps, il est fait pour aller sur Internet. Donc l'acquisition de licences, elle se fait en ligne. Il accède à des radios online. Mais vous mettez un CD ou un DVD, automatiquement, il va essayer de trouver le nom de l'album. Donc, il upload en fait le contenu des pistes sur un site qui lui renvoie en fait le type identifiant du DVD, ça lui envoie le type de DVD avec les infos, la couverture, le nom de l'auteur, etc. Bon, il y a eu des gens qui ont écrit là-dessus en disant, oui, à chaque fois que je lis un DVD, Windows se connecte à Microsoft.com, c'est intolérable, etc. Bon, oui. Téléchargement de codec aussi, c'est si jamais vous avez un format qui est inconnu, il va automatiquement chercher un codec pour le format et l'installer sur votre machine. Donc il suffit d'envoyer un point AVI qui était encodé ou un point WAV qui était encodé avec un codec inconnu. Si jamais vous êtes l'auteur du codec et que vous pouvez mettre une backdoor dedans, tous les gens à qui vous allez envoyer ce fichier, dès qu'ils vont le lire, vont être infectés. Bon, il se met à jour automatiquement. Bon, les skins, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est du contenu actif. Hein. Il y a un serveur qui est en fait windowsmedia.com, où tous les gens qui font des skins pour Windows Media peuvent uploader des choses. Bah, si vous allez dans Windows Media, vous dites change-moi de visualisation, il télécharge automatiquement une nouvelle DLL qui change l'aspect de Windows Media et qui ont été uploadés par les développeurs en général. Bon, il vous appelle automatiquement un newsletter MSDN, il y a le Media Library qui vous permet, enfin, il vous affiche des infos depuis msn.com, ce genre de choses. Donc c'est clair qu'il n'y a pas vraiment de risque immédiat pour la sécurité du poste, à part tout ce qui est téléchargement de contenu actif. Mais par contre, en termes de marketing, là encore, tout est centralisé chez Microsoft, donc ça fait quand même bien. Et pareil, l'histoire des super cookies, c'est quoi? C'est tout simplement chaque installation de Windows Media possède un identifiant unique qui est généré à chaque fois que vous installez le système. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous vous connectez sur un site de streaming, cet identifiant est utilisé pour vous identifier en tant que client unique. Donc il faut que ce numéro soit unique sur tout l'Internet. Et donc, comme c'est un composant scriptable, n'importe qui dans une page web peut récupérer ce GUID et donc faire du suivi de machine basé sur cet identifiant. Voilà, en gros. Bon, Internet Explorer, ouais, il y a pas mal de fois où là, sur Internet, par exemple, vous téléchargez un exe signé, si vous avez activé, c'est qu'à part défaut, la vérification des signatures, il vérifie automatiquement, si jamais il ne trouve pas le certificat qui a servi à signer l'exécutable, il va automatiquement mettre à jour sa liste de certificats depuis Microsoft, ce genre de choses. Il y a aussi un spyware qui est détecté par Adware, mais là, en l'occurrence, pour le coup, ce n'est pas vraiment un spyware, c'est juste un petit composant supplémentaire qui sert pour l'option afficher les liens parentés. Si vous utilisez cette option, effectivement, le contenu de votre recherche va être transmis sur un site tiers qui va vous renvoyer des sites apparentés, et c'est une action volontaire de la part de l'utilisateur. Voilà, bon, et puis sinon, c'est clair que, indépendamment des problèmes de spyware qui pourraient, enfin, en tout cas de connexion Internet qui sont réalisés par IE, c'est une voie royale pour tout ce qui est jeu de 3, installation de spyware et autres. Je ne sais pas si vous avez surfé un peu sur Internet avec la config par défaut d'IE, vous vous rendez compte qu'assez rapidement, il y a des icônes qui apparaissent sur votre bureau. Et ces icônes, si vous cliquez dessus, ils ferment la ligne et ils renumèrent votre modem sur un numéro surtaxé. Parce qu'en fait, il y a une option par défaut d'IE qui permet d'installer des choses sur le bureau. Et donc, c'est utilisé par plein de gens qui font de la reconnexion des serveurs surtaxés, pas des numéros surtaxés. Bon, pour attraper ce genre de trucs, il faut aller sur des sites pas forcément liés à la sécurité, mais... Voilà, et puis Messenger, oui, là j'ai cliqué tout à l'heure sur la présentation, en disant oui, j'espère que vous bloquez tout ce qui est peer-to-peer, mais bon, c'est vrai que Casa maintenant utilise 6.80, c'est pas Messenger. Messenger avant passait pas avec SysQuid, parce qu'il utilisait un verbe qui est PropFind, qui n'est pas standard, et donc Squid ne laissait pas sortir Messenger. Mais maintenant, avec les nouvelles versions, ils font tout en HTTP, donc il n'y a aucun problème, ils se connectent. En fait, comment ça marche, hein, je reviendrai sur REST après. Voilà, ça c'est typiquement un exemple de capture que j'ai fait en vrai sur le réseau. Hein. Donc bah, en fait, au départ, il fait un get ou un post slash URL, user agent messenger 4.7, et puis ensuite il envoie ça direct dans le corps du post. Donc voilà, ça peut être intéressant. Donc je ne vais pas enlever d'autres trucs. Alors voilà, vous voyez, content type, texte, SMS, MSG, profile. Et en fait, il a un protocole assez simple, qui est en fait, il utilise des posts, un peu comme le protocole du Trojan qu'on a dit tout à l'heure, finalement, hein, le grand esprit se rencontre. Il utilise des posts avec des commandes qui tiennent en trois lettres. Donc, par exemple, ça peut être USE pour user, LOG pour log ou une session, et tout comme ça. Et derrière, il y a des contenus donc qui est plus ou moins brouillé. Alors en général, de toute façon, c'est du HTTP, il n'y a pas de HTTPS. Hein. Et puis, alors des fois, on reconnaît, on voit des trucs, ouais, des bases 64, un peu comme, voilà, un peu comme celle-là. Quoi. Donc, et puis, des fois, c'est carrément en clair, donc c'est difficile de... c'est difficile de savoir un peu ce qui s'y fait. Alors, un dernier composant qui n'est pas vraiment préinstallé, mais qui est quand même installé en standard, 90% des Windows, c'est Office. Là, je ne vais pas en parler non plus, puisque le magazine de référence MISC fait un article sur la fuite d'information dans les documents propriétaires. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un tas de problèmes aussi liés à Word, par exemple, typiquement le Word bug. Vous ouvrez un document Word avec une URL, il va automatiquement s'y connecter. Mais bon, vous pouvez trouver l'historique du document, des trucs comme ça. Bon, ça, c'est les plus gros problèmes. Mais ça, en termes de, disons, d'atteinte à la confidentialité ou à la vie privée, je vous invite à lire un article, mais c'est vraiment, enfin, on peut faire des choses assez fabuleuses. Alors, quelles sont les solutions? Parce que, à mon avis, c'est quand même le slide le plus important. Déjà, il faut savoir que tout ça, c'est paramétrable. C'est paramétrable directement en embauchant des trucs dans l'interface ou en allant modifier des clés de base d'origine, donc ça peut être automatisé sur un parc par la stratégie pro. Moi, une méthode que j'aime bien et qui me permet quand même de démarquer un peu de ce qui a été dit avant, c'est que on peut tout simplement utiliser un proxy qui n'est pas configuré dans les paramètres de Windows, auquel cas toutes les applications qui se basent sur la config Windows ne fonctionnent pas, ne peuvent pas accéder à Internet. Donc que ce soit IE, que ce soit Explorer, que ce soit Word, etc. Donc chez moi, effectivement, Internet Explorer n'est pas autorisé à aller sur Internet. J'ai que Netscape, et en fait, pourquoi enfin, Mozilla? Parce qu'en fait, Mozilla gère ses propres paramètres de proxy. Tout comme Windows Media, d'ailleurs, vous pouvez lui donner des paramètres personnalisés. Et en fait, ça permet de faire en sorte qu'il n'y a que cette application-là qui va aller sur Internet. Bon, après, il y a 2-3 astuces, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le fichier sysop.inf, mais dedans, on peut aller afficher les composants cachés comme MSN Messenger. Si vous allez modifier ce fichier, en fait, vous retrouvez une option qui vous permet de désinstaller Messenger, ce genre de choses. La restriction d'exécution, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est en fait les blacklists ou les whitelists d'exécutables. Alors ça, c'est très très utile, parce que par exemple, sur mon poste, j'ai installé VPlayer Networks, donc qui est là encore, et, on peut en parler, mais c'est vraiment un gros spyware, si on peut dire. Et en fait, il y a des trucs qui tournent en tâche de fond, comme le rich scheduler, des trucs comme ça, et qui ne peuvent pas être désactivés. Enfin, bon, le but est de télécharger des mises à jour ou d'afficher des messages sur l'écran. Et en fait, bon, ils sont dans les clés et tout ça, et même si on les enlève de ces clés, en fait, à chaque fois qu'on lit un contenu avec player, il va automatiquement réassocier les fichiers et se remettre dans la clé de base d'origine. Donc moi, j'ai mis une restriction d'exécution tout simplement sur rich scheduler.exe, et chez moi, ils ne se lancent plus. Ça permet de régler effectivement le problème de la même manière qu'on peut mettre une restriction sur explore.exe ou autre option du Windows. Bon, par contre, les whitelists, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Quoi. Et puis, pour tout ce qui est miroir interne, c'est quoi? C'est update service quand vous avez besoin d'aller accéder à Windows Update. C'est le corporate reporting pour tout ce qui est reporting, il y a des choses comme ça. Bon, si jamais les solutions intégrées ne suffisent pas, il faut quand même voir qu'il y a les firewalls personnels, les outils anti-spyware, donc là j'en ai un qui peut-être vous montrer. Ouais, il s'appelle XP anti-spy. Bon, qui n'est pas complet, mais qui fait déjà pas mal de choses. Donc le rapport d'erreur, Windows Media, l'assistance à distance, oui, HTTP, bon, comme ça, l'enregistrement en ligne. Il y a des trucs qui sont intéressantes, par exemple, désactiver l'alimentation de bande passante. Bon, ça, c'est pas du spyware, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a un composant qui s'appelle qualité de service, qui est installé par défaut à XP, et qui réserve 20% de la bande passante pour les messages clés urgents. Donc vous ne pourrez jamais dépasser 80% de votre bande passante avec une install standard de XP. Donc si vous cochez ça, c'est intéressant. Une dernière solution éventuelle, c'est Internet, mais ça limite le fond. Donc pour moi, moi, c'est pas une mauvaise idée, c'est-à-dire j'ai un poste internet qui sert à faire l'internet. Dernier des chapitres, conclusion. Bon, alors effectivement, par défaut, Windows, il accède assez régulièrement à Internet, voire de manière qui pourrait sembler incompréhensible, ou des fois c'est carrément de manière asynchrone, on ne sait pas ce qu'on a fait, d'un seul coup, il accède à Internet. Bon, globalement, pour ce que j'en ai vu, il y a quand même pas d'information, jamais d'adresse email qui transfère, sauf peut-être si vous utilisez Messenger, des trucs comme ça, où vous allez utiliser un profil, quoi, quelque part. Et sinon, il ne va pas envoyer votre adresse email, des choses comme ça chez Microsoft. Par contre, en termes de marketing, il y a quand même un point central qui permet de contrôler assez facilement les installations, enfin tous les Windows XP qui sont dans la nature. Quoi. Et savoir un peu ce qu'ils font, quel site ils accèdent, des choses comme ça. Bon, ensuite, au niveau transmission, il ne faut pas compter sur les mécanismes intégrés parce que des fois c'est du HTTPS, mais plus souvent c'est du HTTP. Le chiffrement, c'est dans 90% du cas du base 64, donc vous pouvez retrouver les infos de base. Des fois, c'est des protocoles propriétaires dont on ne sait pas trop. Pour moi, le meilleur moyen, c'est d'utiliser, de ne pas configurer le proxy et d'utiliser un navigateur externe. Avec ça, vous empêchez Windows d'accéder à Internet. Et le sujet est loin d'être clos. Bon, ça, c'est la dernière partie de la présentation que vous avez à un titre de référence. C'est en fait tout ce que je n'ai pas traité, parce que mise à jour de driver, l'assistant compatibilité, puisqu'en fait il y a une base dans le système qui liste toutes les applis et tous les drivers incompatibles. Si jamais vous essayez d'en lancer un, il va refuser en disant attention, il va bloquer un site Microsoft qui permet de télécharger une mise à jour de l'application. Les journaux d'événements, comme vous consultez, ils vous proposent automatiquement de vous rediriger vers les sites web où vous expliquent les événements. Les associations de fichiers, quand vous cliquez sur un fichier que vous ne connaissez pas, il va chercher un viewer sur Internet. Bon, les jeux online du type Spider solitaire en réseau, des trucs comme ça. MSN Explorer, NetMeeting, la synchronisation horaire automatique avec time.windows.com, Universal Plug and Play, bon ça je pense que vous avez déjà entendu parler, mais c'est sympa, Google Express, et puis tout ce qui est Plug and Play, c'est-à-dire si vous branchez un périphérique inconnu dans votre matériel, enfin sur votre config, il va automatiquement uploader le PNPID sur le site de Microsoft. Pour que Microsoft puisse voir s'il n'y a pas de driver, s'il n'y a pas de développer des drivers. Voilà, donc, à titre de référence, je vous donne une liste de toutes les URL qui apparaissent dans la présentation. Donc vous vous rendez compte qu'il n'y a pas que Microsoft.com à filtrer, hein, si vous voulez mettre des whitelists, c'est Windows.com, WindowsMedia.com, Microsoft.dns.net, WindowsUpdate.com, Passport.net, Passport.com, MSN.com, et il peut y en avoir d'autres qui ne sont pas résolus en DNS inverse, et alors là, vous avez bon courage. Est-ce qu'il y a des questions?
C'est vrai qu'apparemment il y a de plus en plus de contenu exécutable qui est téléchargé de manière transparente par l'utilisateur. Et étant donné qu'il y a déjà des cas connus de compromission des serveurs Microsoft, voire Windows Update, est-ce qu'on ne court pas un risque d'avoir toutes les machines XP par défaut compromises le même jour par le même moyen suite à la compromission des serveurs Windows Update?
Non, mais à titre d'exemple, il y a 15 jours, ils ont diffusé un correctif qui était incompatible avec Norton Internet Security 2003. Et il y a 600 000 personnes qui ont été coupées d'Internet, qui ne pouvaient pas télécharger le contre-correctif. Donc oui, c'est possible. Sans action de leur part, puisque une partie, je pense, avait téléchargé volontairement le correctif, et les autres, ils avaient le auto-update qui leur a dit des mises à jour sont disponibles, est-ce que vous voulez les installer? Ils ont dit oui, et la machine n'était plus capable d'accéder à Internet.
C'est joli,
c'est le chef de compacteur, c'est le...
honnêtement, je ne sais pas répondre à la question, mais je pense que Internet Explorer, c'est comme tout, en fait. Le problème, c'est qu'Internet Explorer est partout, et vu le nombre de failles non corrigées que vous trouvez d'ailleurs dans Disk 96, je crois, qui permettent d'exécuter automatiquement du code et des choses comme ça, c'est clair que ça pose un problème maintenant. Avec Mozilla, par exemple, il y a moins de bugs. Enfin, disons, il y a moins de gens qui font la recherche dessus, et il y a plus de bits intermédiaires, donc c'est plus difficile de faire des exploits génériques. Et il y a moins d'utilisateurs. Quoi. Quand je dis moins, c'est vous allez voir, 5% des gens qui utilisent Mozilla, mais encore. Quoi. Donc, c'est juste une question de prédominance sur le marché comme ça. Enfin, je veux dire, c'est un débat qui a déjà été largement abordé. Quand tout le monde utilise le même logiciel, dans la même version, c'est clair que ça a un intérêt de lancer des choses aussi. C'est clair qu'on en trouve. Je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est aussi sous la pression des utilisateurs que les gens vont aller plutôt vers un logiciel. Enfin, si tout le monde est sous Mozilla, enfin, en tout cas, disons tous les gouvernements, les universités et autres imposent d'autres navigateurs aux utilisateurs, quelque part, les sites, qui, par exemple, si dans les universités, tout le monde est obligé d'utiliser Mozilla, vu qu'il y a quand même un marché assez important de tout ce qui est 15-25 ans pour les sites de SMS et autres, ils seront obligés de passer sur des choses compatibles de HTML. Maintenant, si tout le monde est sur le lieu, oui, effectivement, avoir des transitions de page, des boutons dans la personnalité, c'est pas vraiment intéressant.
Le problème,
que Microsoft pousse à. Enfin, ils ajoutent de nouvelles fonctionnalités dans le lieu qui ne sont pas standards, mais qui sont très pratiques, comme par exemple le support du JavaScript, hein, et que les gens finissent par utiliser. C'est un tort, mais je dirais que ça, c'est la première étape. Hein. Aujourd'hui, il y a effectivement le problème de HTML en standard. Je pense que demain, il y aura un problème, justement, vous disiez des HTML. Je pense qu'il y aura un problème plus grave avec tout ce qui est XML, des HTML et autres. Là, ils sont complètement standards, mais qui permettent de faire de la sérialisation d'objets et autres. Et qui permettront de faire des exploits génériques, quel que soit le type de navigateur client. Et là, je pense que c'est, enfin, le jour où on aura des navigateurs qui supportent tous le XLSP, on pourra faire des super pages web. L'idée, c'est développé par les Allemands, donc je pense que il y a moyen de se rapprocher d'eux, mais de toute façon, tout ce qu'ils font, c'est documenté. Hein. C'est que c'est une collection de clés de base de registres qui sont présentées avec des cases à cocher. Donc si vous voulez refaire vous-même, vous pouvez. Tout est documenté de toute façon. C'est juste un comportement par défaut du système qui est dangereux.
Est-ce que vous avez
des
questions ? Bonjour, merci.